forteresse.
Radio Libertaire 89.4.
La marche est chez l'homme. La forme la plus elle est constituée par des pas successifs et l'on n'appelle pas l'ensemble des mouvements compris entre le moment où l'une des jambes quitte le sol et celui où elle y arrive de nouveau après avoir oscillé autour de l'articulation coxo-fémorale. Pendant cette oscillation, l'autre jambe reposant au sol en état d'extension soutient le poids du corps. Dès que là jambe en mouvement, à dépasser là, jambe fixe, le corps tendrait à tomber en avant, si là, jambe en activité, primitivement fléchie ne s'étendait à son tour, arrête la chute en touchant le sol par son talon, le pas est terminé.
J'habite le vent, mon corps est une flamme. Je montre les dents aux fleurs et aux gendarmes. Le soleil me suit, je ne connais pas Dieu. Le monde est mon lit, le vent souffle où je veux. Comme une chimère, comme un animal sous ma moto panthère tremble entre mes genoux. Toi, Blanche-Neige, pauvre colombe, avec ta douce figure. Toi, Blanche-Neige, grosse colombe, retourne à tes confitures.
La main qui fait sonner l'enclume, la main qui fait chanter la plume, la main qui creuse le sillon, la main qui arme le béton. La main qui nivelle l'air, la main qui referme la plaie, la main qui tisse le coutil, la main qui fait rougir l'outil. La main qui fauche les blés durs, la main qui cueille les fruits mûrs, la main qui coule le ciment, la main qui taille le sarment. La main qui tend, la main qui trace, la main qui coule, la main qui brasse, la main qui règle le compas, la main qui tient le bête au pas. Toutes ces mains qui vont et viennent à la cadence des métiers, toutes ces mains qui vont qui peinent, ces mains s'ignorent volontiers. La main qui resserre les taux, la main qui brase les métaux, la main qui fend, la main qui broie, la main qui cloue, la main qui bat. La main qui concasse le grès, la main qui fixe les agrès, la main qui perfore l'acier, la main qui course le clavier. La main qui frappe au cœur des arbres, la main qui façonne le marbre, la main qui plie, la main qui peine, la main qui travaille à la chaîne. La main qui creuse dans la mine, la main qui se blesse aux machines, la main qui souffre et qui se tord, la main qui tremble sous l'effort. Toutes ces mains qui vont et viennent à la cadence des métiers, toutes ces mains qui vont qui peinent, ces mains s'ignorent volontiers. Mais je crie à qui veut l'entendre, ma confiance en l'avenir, les mains sont faites pour s'attendre, les mains sont faites pour s'unir.
Bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Radio Libertaire 89.4. Nous sommes dans le cadre de l'émission « Et pourtant, elle existe, cette littérature » qui est consacrée à la littérature prolétarienne, émission qui est animée par des membres du CLOPS, Cercle culturel de littérature ouvrière, paysanne et sociale, et qui publie notamment Fragments, revue de littérature prolétarienne, dont nous en sommes bientôt au numéro 10, et qui a mis en place un secteur édition dénommé Prolits. Alors je rappelle aux auditeurs et aux auditrices qui peuvent nous contacter par téléphone au 01 43 71 89 40. Voilà pour cette présentation générale. Aujourd'hui, il n'y a pas d'invité dans le studio, donc cette émission sera animé par Michel, qui nous parlera d'une exposition sur le surréalisme, et Frédéric, qui est, comme chaque fois depuis le début de cette émission, à la technique, et moi-même, Raphaël. Alors, au sommaire d'aujourd'hui, nous allons faire un petit retour récent sur les salons auxquels nous avons participé. Que ce soit à Vendôme, Merlieu ou Paris. Nous aborderons rapidement le sommaire de Fragments numéro 10, qui devrait sortir en fin d'année, début plutôt 2025, je pense, qui est consacré aux actes du colloque Michel Ragon, qui a eu lieu le 8 et 9 juin 2024 à l'AGK. Un point également sur notre secteur édition, puisque nous avons déjà édité 2 livres et là, le troisième est actuellement au maquettage. Une prochaine rencontre, un rendez-vous en tout cas pour les personnes qui sont en région parisienne le 21 novembre. Ensuite, nous mettrons le zoom sur quelques ouvrages récents ou pas d'ailleurs, puisqu'il y en a un qui date de 1999, qui sont 3 ouvrages qui relèvent des éditions Plein Champ. Alors je rappelle, Plein Champ, c'est une maison d'édition qui existe depuis 1971, qui se trouve à Bassac, en Charente, ou Charente-Maritime, Charente, et qui repose, disons, sur l'activité d'une équipe, les Amis de Plein Champ, et en particulier Edmond Thomas, qui est, rappelons-le, un artisan imprimeur, et dont les ouvrages sont réellement un travail de qualité, c'est pas simplement des pages assemblées. Donc nous parlerons de ça. Ensuite, Michel nous parlera d'une exposition qui a lieu au Centre Pompidou, le surréalisme d'abord et toujours. Alors, je vais commencer par un petit point sur les différents salons. La diffusion, je le rappelle, à la fois de fragments de notre revue, mais aussi des livres édités, comme de la diffusion que nous faisons d'un certain nombre de livres qui ne relèvent pas de notre production, mais qui relèvent par exemple de Plein Champ, dont je viens de parler, mais également d'autres éditeurs, comme par exemple L'Échappée, qui a un secteur aussi relativement conséquent, qui est consacré à la littérature prolétarienne, avec des auteurs comme Panaïs Istrati ou bien Eugène Dabi, par exemple, dont un certain nombre de textes sont parus chez eux. Donc cette diffusion, elle se fait par notre activité interne, puisque le club, c'est d'abord une association qui regroupe plus d'une cinquantaine d'adhérents, et en même temps un réseau d'abonnés à la revue. Et notre présence concrète dans les salons nous permet de nous faire connaître, de rencontrer un lectorat que nous n'aurions sans doute pas connu, d'avoir des échanges si on n'y était pas présent. Alors les trois salons qu'on a fait récemment, deux en septembre et un à Paris récemment. Tout d'abord le salon de Vendôme, c'est un salon auquel nous participons depuis 3 ans, puisque sur place nous avons une petite équipe membre du CLOPS qui fait un réel travail de diffusion, parce qu'on l'a toujours dit, mais l'essentiel c'est pas de faire une revue, c'est de la diffuser, c'est pas de faire un livre, c'est de le diffuser, et les conditions aujourd'hui pour le faire de manière totalement autogérée, ça ne peut reposer que sur l'investissement concret des uns et des autres. Sinon, il faut passer par un distributeur, un diffuseur, qui prennent 69% à eux deux du prix d'un ouvrage, ce qui ne permet pas en général à des revues, sauf si elles sont subventionnées, ce qui n'est pas notre cas, d'être équilibrées. Donc, Vendôme, la petite équipe qui a été renforcée, puisqu'on était plusieurs du club, ça va être présent. On ne peut pas dire que ça a été un succès sur le thème du nombre de personnes qui ont fréquenté cette salle qui était réservée à ce salon du livre, puisqu'on avait en concurrence les journées du patrimoine. On a vu plein de groupes dans la vigne qui se déplaçaient. Par contre, notre présence a été relativement très, très positive, même par les peu de visiteurs, mais de réels contacts et de prises de contact. Même des abonnements ont eu lieu lors de ce salon. Donc, un point positif, et on insistera peut-être jamais assez sur l'importance qu'il y a de rencontres physiques, du tissage de relations humaines entre une équipe qui produit une revue ou des livres et le lectorat réel ou potentiel qu'on peut amener à découvrir, puisque de ces contacts peuvent jaillir des propositions, des suggestions pour améliorer notre travail et éviter une relation verticale avec un lectorat. Voilà. Le deuxième point, c'est, là je n'étais pas présent personnellement, mais les échos qu'on a eus, c'est la présence au salon de Merlieu, dans l'Aisne, à laquelle je crois que c'était la troisième année où nous avions des représentants sur place, où disons que là la situation a été relativement compliquée au niveau de la fréquentation, à la fois pour une raison objective, c'est-à-dire sur laquelle on ne peut rien, c'est les intempéries qui effectivement réduisent la participation des visiteurs, et en même temps quelques difficultés créées par la municipalité qui avait un peu isolé le salon tenu par le pôle anarchiste, puisqu'ils avaient fermé la rue qui y accédant. Parce qu'en fait, il y a deux salons à Merlieu, si on veut, ce qu'on appelle un salon off qui est dans le village, et un salon off qui est plutôt regroupe les différents maisons d'édition autour du groupe. Il faut insister sur le travail extraordinaire que fait le groupe Kropotkine depuis des années dans la région de Laon, un travail d'implantation et un travail concret, là aussi, de contact avec les gens, à la fois par la librairie, par ce salon, et aussi par l'épicerie coopérative autogérée qu'ils ont mis en place, qui mérite vraiment d'être saluée, parce que là nous sommes en présence de militants anarchistes concrets, hein, qui ne sont pas simplement du blabla et qui vraiment tentent de faire des réalisations qui perdurent dans le temps. Voilà cette parenthèse. Enfin, pour conclure sur ce petit zoom sur les différents salons, nous avons fait, c'était le week-end dernier, le salon de Paris, hein, c'est le salon organisé par Entre Revues. Donc là, c'est à la Halle des Blancs-Manteaux, il y a plus de 250 revues hein, présentes, qui viennent de l'ensemble du territoire. Hein. C'est vraiment l'occasion aussi de rencontrer des gens avec lesquels des fois nous-mêmes on travaille mais qu'on ne voit pas concrètement. Hein. Donc là, vraiment sur deux jours, des milliers de visiteurs, hein, c'est énorme. Il y a même embouteillage dans les travées. C'est quelque chose d'important, quelque chose qui demande aussi un investissement un peu cher, puisque une table coûte plus de 250 euros. Hein. Et nous, là, on a été présents sur deux jours, à la fois une équipe de 4 ou 5 personnes le samedi, de 2 personnes le dimanche, dont Frédéric ici présent, et de bons échanges là encore. Et quand je dis que ça permet des échanges avec des gens qui ne connaissent pas nécessairement notre courant littéraire, hein, ça on a eu le cas fréquemment, des gens qui disaient qu'est-ce que c'est, des gens qui saluaient aussi la qualité de la revue, des gens qui l'achetaient, des gens qui potentiellement certains pourront peut-être contribuer à donner des textes. On a des échanges des fois relativement importants, longs, qui ne débouche pas nécessairement sur des ventes, mais là, le problème n'est pas là. Ça permet surtout de faire connaître une histoire. À côté de nous, il y avait le stand de Réfraction, hein, on connaît bien dans le mouvement libertaire. Et on a aussi eu, quand je dis que ça permet des rencontres avec d'autres équipes qui travaillent sur des segments proches des nôtres, comme les amis de Panaïs Sistrati, hein, qui sont animés par Christian Dengru, qui avaient leur propre stand, et ça permet l'occasion de rencontres. Et d'ailleurs, le numéro 11 de Fragment fera un dossier hein, sur Panaïs Sistrati, avec notamment la participation de Christian Dengru, qui était présent à ce salon. Donc là encore, vraiment une bonne présence. Frédéric, si tu veux, comme je te l'avais dit tout à l'heure, non, tu souhaites rien ajouter parce que tu as été présent avec Vincent tout le dimanche et voilà.
Ben, si, comme tu l'as dit de façon intéressante et réelle, en effet, le dimanche, une affluence que je m'attendais pas, c'est-à-dire que même des personnes qui passaient dans la rue et qui ne connaissaient pas forcément et qui rentraient un petit peu comme ça, qui s'attardaient sur différents sites, et j'étais très frappé en effet de voir vraiment, comme tu as dit, des travées, l'allée centrale qui était quand même très très bondée hein, en quelque sorte, et même jusque presque à la fermeture d'ailleurs hein, et une qualité des échanges, c'est-à-dire des contacts de personnes qui en fait ne cherchaient rien en particulier mais qui s'attardaient sur les stands, sur les tables, et puis bien sûr la nôtre aussi, qui nous a permis de converser et de partager un petit peu la connaissance un petit peu. Et comme il voyait aussi que le Clubs avait un grand panel de centres d'intérêt, c'est-à-dire littérature, ouvrière, paysanne et sociale, culturel aussi, hein, parce qu'on leur disait qu'on s'occupait pas que de livres, de toute la représentation culturelle, et donc ça c'était très important. Donc il y a eu des gens qui ont échangé, on a pu leur faire part aussi que nous avions une émission, hein, qui était très importante, certaines personnes nous ont dit qu'elles écouteraient, que ça les intéressait beaucoup. Donc on a pu, comme tu dis, toucher un public qu'on n'aurait peut-être pas toucher, c'est disons habituellement des personnes pas forcément dans des milieux militants ou qui s'intéressent à une littérature qu'en fait. Voilà, je te repasse la parole.
Exactement, et ça effectivement, ça nous permet de faire connaître aussi l'émission de la radio. J'ai oublié dans les personnes qui étaient présentes aussi, nos amis des cahiers Henri Poulaille, hein, avec qui avaient leur propre stand, et avec lesquels nous avons pas mal d'échanges, et d'ailleurs on diffuse bien entendu les cahiers Henri Poulaille, édités par Plein Champ, mais réalisés par cette équipe, hein, dont faisait partie Jean-Paul Morin, qui est décédé cet été, faisait également partie Jérôme Radvan, lui aussi décédé il y a 2 ans, et qui nous avait rejoint, et vraiment où il y a des points de convergence, et puis aussi des rencontres avec des gens qu'on penserait moins, mais je pense à cette personne du stand qui était à la fois membre des Amis de Charles Péguy et des Cahiers 1900, qui passe à notre stand la fin du dimanche soir, et qui voit que dans le livre d'Henri Poulaille, dans l'essai de Poulaille, le manifeste de la littérature prolétarienne, il voit au sommaire que Poulaille parle de Charles Péguy, et qui se procure à ce titre-là la revue. C'est-à-dire des échanges concrets, avec sur des points donnés, pas sur l'ensemble de leur activité ou les nôtres, mais sur des points donnés, des convergences qui peuvent être intéressantes à creuser, de la même façon que l'année dernière, il y avait le stand de Jean Guéhenot, avec lequel Poulaille a eu des rapports, pas mal de choses comme ça, quoi. Voilà, donc je crois qu'on peut conclure là, et merci Frédéric, effectivement, d'avoir tenu effectivement avec Vincent le dimanche, puisque en parallèle de ce salon, nous avions une réunion de travail du CLOPS, hein, dans un autre lieu. Voilà. Ensuite, je vais parler maintenant des futures publications. Hein. Ça sera assez rapide. Le numéro 10 de Fragments, qui paraîtra donc, je pense, début 2025, avant notre assemblée générale annuelle, hein, qui aura lieu le 18 janvier. Pour les adhérents du CLOPS. Alors ce numéro va être, quand on dit c'est les actes du colloque Michel Dragon, c'est-à-dire la reprise des présentations qui ont été faites, des contributions qui ont été réalisées ce jour-là, oui, il y aura ça, ce qui demande un intense travail pour l'équipe qui prépare ça, et en même temps il y aura des contributions de personnes qui ne pouvaient pas être présentes à ce colloque, mais qui nous ont envoyé des textes. Hein. Je pense à Philippe Geneste, je pense à Thierry Paco, dont on devrait avoir une contribution sur Ragon et l'urbanisme. Donc ça va être un numéro assez copieux, je pense, assez riche, qui devrait survoler à peu près toutes les activités. Une étude aussi sur Drangue de Métier, hein, son premier ouvrage, qui a été fait, qui est réalisé par une jeune étudiante, qui nous l'a transmise, qui est vraiment un texte très très intéressant, qui n'a pas été présenté évidemment au colloque, mais qui analyse vraiment cette première publication non poétique de Michel Dragon, puisqu'avant il avait publié des poésies. Alors ça, c'est pour rendez-vous. Je rappelle d'ailleurs à nos auditeurs et auditrices de Radio Libertaire que on accepte des propositions, bien sûr, de textes, hein, qui rentrent dans le cadre de notre thématique. Hein, je rappelle, le club CSR culturel, littérature ouvrière, paysanne et sociale. Hein, il ne s'agit pas simplement d'être un prolétaire pour participer à la revue, mais d'avoir des propositions. Ça peut être aussi des recensions de textes ou des contributions, des témoignages sur tel ou tel aspect de la vie d'une personne, ou professionnelle ou personnelle. Voilà. On y reviendra peut-être dans un prochain numéro sur des textes qui viennent de nous faire parvenir.
Et du même coup, comme tu dis, ce peut être aussi la participation aux émissions qu'on est en train d'animer, qu'on soit parisien ou pas parisien, peu importe, puisque la technique et la virtuosité de Frédéric nous permet effectivement d'avoir des interviews ou des interventions de gens que ça intéresse, de parler à la radio pendant notre émission.
Et je répète le numéro de téléphone 01 43 71 89 40. Alors, le dernier point avant notre première pause musicale, c'est le secteur édition du CLOPS. Hein. Je rappelle, on a publié 2 ouvrages. François Lebert, d'ailleurs, qui était venu à cette émission pour en parler. François Lebert, Ligne de front, a été le premier livre publié par, par les éditions Prolitz, hein, puisque c'est le nom qui leur a été donné. Ensuite, on a réédité, à l'occasion du colloque, mais un petit peu avant, le livre de Michel Ragon, « Nous sommes 17 sous une lune très petite hein, », qui avait été publié en 1968, à la fin de 68, on en a déjà parlé aussi. Et le troisième ouvrage, qui en est à la phase du maquettage, s'intitule « D'hier à aujourd'hui, des agents des PTT », parce que c'est bien des PTT, c'est-à-dire secteur poste et télécommunications, « des agents des PTT prennent la plume, mémoire partagée ». Voilà, sous ce titre, on a essayé de faire un panorama de textes qui s'écoule sur un siècle, on peut dire, puisque une des premières contributions... d'ailleurs, Poulaï, on a repris des textes qui avaient été publiés par Poulaï, qui avait consacré en 1932-33 un numéro de spécial de la revue Prolétariat. Il y avait des numéros thématiques, il y en avait un qui consacrait des mineurs, et il y en a un qui avait été consacré aux agents des PTT. Donc on a pu reprendre Tourner des traînes, par exemple, qui est un postier qui a pris sa retraite en 1931. Donc ça veut dire que les témoignages sur cette époque-là n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé par la suite. On aura aussi des témoignages de deux ambulants, André Savanier et Charles Vallée, qui ont été des ambulants, et notamment Charles Vallée, sous la période où Clémenceau était au pouvoir et auteur des révocations de 600 personnes une première fois, amnistiées, puis à nouveau 600 personnes ou 800 révoquées pour des faits de grève, puisque le droit syndical n'existait pas. Donc on a toute cette période-là, et puis on va enchaîner avec, des périodes plus contemporaines avec différents témoignages, à la fois de facteurs, d'ambulants, de télécommunicants, et je crois qu'on aura fait à peu près le tour. Et on a quelques contributions de ce qu'on appelle, nous, les usagers, ce que la Poste appelle aujourd'hui les clients, et on aura des témoignages donc d'usagers, à la fois par exemple sur la question du prix du timbre ou du passage à la lettre, le timbre vert, ce que ça signifie, un peu des choses comme ça, et des témoignages aussi un peu de fiction. On a une contribution de Franck Thiriot qui est assez plaisante à lire, hein, qui relate un peu le quotidien fictionnel du travail de facteur. Et enfin, pour compléter, il y a au sommaire un historique qu'on a fait avec Laurent Gelin sur l'histoire de la Poste et des télécoms, et ensuite un bref raccourci de l'histoire syndicale dans les PTT. Voilà. Et ça, la parution devrait avoir lieu, nous l'espérons, pour la fin novembre, donc on pourra peut-être en discuter et notamment avoir des invités qui pourront en parler à cette occasion. Voilà, je crois qu'on peut faire une première pause musicale.
I was standing by the dial when I saw the
Vous êtes bien à l'écoute de Radio Libertaire 89.4, l'émission Et pourtant il existe cette littérature. Vous venez d'écouter Pink Floyd, The Nile Song, une chanson du film More, M-O-R-E, hein, pas More, M-O-R-T, bien sûr. L'émission continue, je repasse le micro à Michel et... J'ai oublié le prénom, je suis désolé. Raphaël, voilà, exactement, il y a des trous comme ça, c'est horrible. Voilà.
J'ai tendance. Donc, on va tout d'abord parler de la rencontre qui est organisée le 21 novembre, rapidement. C'est un rendez-vous qu'on donne notamment aux personnes qui sont en région parisienne. C'est organisé par Entre Revues, hein, c'est-à-dire ceux qui avaient organisé le salon dont je vous ai parlé. Et ils ont un rendez-vous mensuel sur différentes thématiques. Et nous serons présents le 21 novembre à 18h30. C'est 54 boulevard Raspail, c'est au métro Sèvres-Babylone. Et ça va être autour du centenaire de la naissance de Michel Ragon, avec une participation de André Derval, hein, dont je pense que nous l'aurons dans notre prochaine émission, si tout se passe bien, qui a lieu d'ailleurs le 21 novembre aussi. André Derval, qui a écrit une biographie concernant Michel Ragon, hein, Michel Ragon singulier et pluriel, aux éditions Albin Michel. Donc il sera présent. Il y aura Françoise Ragon, hein, j'ai oublié de nommer, Giuseppe Lucatelli, qui est déjà intervenu sur cette antenne pour nous présenter ses ouvrages, notamment Pièces détachées. Possible Thierry Maricourt, moi-même et d'autres membres sans doute du club, on verra les personnes qui sont présentes. Mais là aussi, une occasion d'un échange concret sur Michel Ragon. Pour un peu pour nous clore cette année 2024. Je rappelle quand même qu'en région parisienne, à Paris et en région parisienne, les hommages à Michel Ragon étaient relativement rares, puisqu'il y a eu une autre colloque, et il y a cette réunion. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'autre initiative. Hein. Par contre, il y a eu des choses, on en a déjà parlé, hein, très importantes en Vendée, hein, un département dont il était originaire, et à Nantes. Voilà. Et j'ai oublié, récemment, il y a eu aussi un échange autour de Ragon-Soulages à Rodez. Voilà. Alors, j'enchaîne avec des livres. On va parler de quelques livres. Alors, tout d'abord, un livre assez ancien, mais que nous pouvons continuer à diffuser par notre service librairie pour nos adhérents et nos abonnés et les gens qui sont en contact avec nous, qui peuvent nous commander. C'est un plein champ qui est paru à l'été 1999. C'est plein champ parce que plein champ, c'est la publication d'auteurs, donc des romans, des livres, mais c'est aussi une revue au départ. Hein, c'est une revue plurielle, un peu à l'image de fragments. Hein, je ne mets pas du tout les deux sur le même plan, tant pour l'antériorité que pour le contenu. Mais plein champ numéro 68 avait. Je vais vous parler un peu du sommaire. Et puis surtout du dossier qui a été consacré à Émile Ratier. Au sommaire, c'est intéressant de voir des articles qui traitent de la littérature prolétarienne. On a un texte du mineur René Berthelot sur le chansonnier Charles Gilles, qui est mort en 1856. On a aussi un article qui présente un article de Joe Risco, j'espère que j'écorche pas son nom, sur l'univers des rebetika en Grèce, c'est-à-dire l'expression d'une culture populaire urbaine qui s'est manifestée jusqu'au début des années 1960. Et ce courant, c'est l'expression individuelle ou collective de ceux et celles qui se nommaient les rebètes, en gros signification hors la loi. Et les rebetika sont des chansons et des danses qui abordent la vie quotidienne avec une thématique qui est celle des voyous. Je crois que le nom, c'est Manges en grec. Et ce qui est très intéressant, et je vais encore radoter en disant qu'il n'y a pas de coïncidence, mais il y a un rendez-vous, pratiquement la même semaine que je prépare cette présentation de revue, nous sommes contactés par une personne qui nous envoie des textes Rebetika et dont nous avons donné une suite, et peut-être on pourra même en lire à l'antenne de Radio Libertaire, et une personne qui vit aujourd'hui en Grèce. Et donc, là, il y a quelque chose de tout à fait symbolique. Ensuite, on a dans cette revue 68 un regard sur les travaux de Raymond Coppens. Hein. Raymond Coppens, c'est un livre qui a été édité par Plein Champ, Le Retour du Vivant. Il a fait un peu tous les métiers, Raymond Coppens. Un article qui est signé de Jean-Pierre Canon, qui était, si je ne me trompe, Canon, qui était libraire, je crois, qui est décédé en Belgique. Et là, il nous présente des gravures de cet auteur belge. Et c'est vraiment un autodidacte qui avait fait aussi un choix, le refus de parvenir. Il peignait, sculptait, écrivait. Et enfin, une approche dans ce texte entre Henri Poulaille et Jean Toussel, hein, qui était un paysan belge qui est mort en 1944, et qui c'est un article qui était proposé, écrit, réalisé par Jérôme Radvan, et qui nous montre un peu les positions de littérature prolétarienne par rapport aux écrits de Jean Toussel, ce paysan belge, mais aussi par rapport à la question de l'art, hein, c'est-à-dire le refus de l'art pour l'art, le refus de tant de l'activisme pour des fins politiques que de l'esthétisme pur érigé en principe absolu. Mais c'est pourquoi il me semblait important de continuer à faire vivre ce numéro de Plein Champ 68, c'est qu'il est consacré à un dossier, à un créateur qui est souvent ignoré, hein, qui a eu un itinéraire hors norme, c'est Émile Ratier, 1894-1984, qui est né dans le milieu paysan du Lot. Hein. Très jeune, c'est quelqu'un qui va montrer une aptitude à travailler le bois. Il va être mobilisé en 1914, il participera à la bataille de la Marne et à celle de Verdun. Il sera plusieurs fois blessé, remontera au front, il sera fait prisonnier, il ne reviendra à la vie civile qu'en 1919, comme beaucoup d'ailleurs de prisonniers à l'époque, hein, qui ne sont sortis que bien après l'armistice. Il se marie en 1920 et il reprend la ferme. Et il va s'y consacrer toute sa vie, c'est-à-dire ses ressources, ça va être le travail de la ferme. Et en même temps, il sera, je cite, marchand de bois coupé en morceaux. Vers la soixantaine, il va se manifester des séquelles de cette première boucherie mondiale, c'est-à-dire des séquelles, des gazages à l'hypérite, hein, qui ont beaucoup sapé les corps. Hein. Je rappelle que, pour la petite histoire, la fondation de la Vie Claire, une chaîne de nourriture bio, a été faite par une personne qui avait été gazée et qui avait besoin d'une autre alimentation pour survivre. Enfin, ça, c'est une parenthèse. Donc, il devient, autour de ses 65 ans, Émile Ratier devient aveugle. Il fait alors une forte dépression. Et en fait, sur les conseils d'un ami ou d'un médecin, je ne me souviens plus exactement, qui lui conseille comme thérapie de reprendre, d'avoir une activité de ses mains. Et il va se remettre à fabriquer des objets dans une remise qui est attenante à sa ferme. Il va travailler dans une double obscurité, la sienne, puisqu'il est aveugle, et en même temps celle de la remise. Et il travaille, il produit des objets sans perspective de les faire connaître pratiquement. En fait, c'est sa lutte contre une solitude intérieure. Et en travaillant quelque chose qu'il avait déjà un peu, je dirais pas de inné, mais presque en lui, de ce travail du bois. Et c'est la visite non prévue d'une jeune femme, Bernadette Bourus, qui incidemment rentre dans cette remise, alors qu'elle cherchait quelqu'un, là, il n'y avait personne dans la ferme, et qui va découvrir ses créations et s'exclamer « Quel beau musée d'art brut !» De fil en aiguille, c'est Jean Dubuffet qui va découvrir ses intermédiaires, hein, puisque Jean Dubuffet n'allait pas directement chez les gens, hein. Il avait toujours des intermédiaires, et là c'est Gaston Puel qui vit dans le Tarn, qui va faire des photos des réalisations d'Émile Ratier, et il va lui acheter toutes ses créations, je crois en 70 ou dans ces eaux-là, par l'intermédiaire de Gaston Puel, et c'est il va s'acheter en 71 effectivement, et ils vont rejoindre ils vont intégrer la collection d'art brut de Sèvres, rue de Sèvres à Paris, puis ensuite rejoindre Lausanne quand Dubuffet va léguer sa collection à la Suisse. Donc là, ensuite il va continuer à créer, hein, Émile Ratier, des œuvres qui seront acquises par Caroline et Alain Bourbonnais et exposées dans l'atelier Jacob à Paris. Le panorama que je vous ai résumé ici est issu de la plume de Joe Rixco, qui ouvre ce dossier, et ensuite il y a plusieurs éclairages, plusieurs contributions qui donnent à faire vivre ce paysan devenu créateur d'art brut. Je terminerai sur ce point en citant une lettre de décembre 68, écrite par Jean Dubuffet à Émile Ratier, et nous pouvons y lire ceci. Nous avons tous été très émerveillés par vos ouvrages et je vous tiens à vous exprimer notre enthousiasme devant ces œuvres si pleines de verve et d'invention, si ingénieuses, si parlantes. Il souligne que les créations dues à des personnes étrangères au milieu professionnel, artistique et culturel ont plus d'invention personnelle, plus de robuste verdeur. Voilà, donc, pour un peu cet éclairage rapide sur Émile Ratier, qui mérite, je pense, d'être redécouvert. Si des personnes sont intéressées, il y a deux solutions. Contactez le CLOPS au 79 rue du Docteur Roux, 95 130 Franconville, ou contactez directement les éditions Plein Champ, qui doivent encore en avoir quelques exemplaires. Voilà. Alors, ensuite, je vais donner... On va faire une petite pause musicale.
Un pont de la Seine sur le garde-fou, tes mains se promènent, moi j'ai le cœur flou. Je vois la pluie sur ton visage quand tu sors de la faculté. Tes yeux caressent les nuages comme un voyage à ta portée. Je n'attends plus rien de personne, à force d'illusions brisées. Quand nos destins se sont croisés, je prenais mes quartiers d'automne. Si tu permets que je t'escorte, moi qui sais mes leçons par cœur, je risque bien à tes classeurs d'ajouter quelques feuilles mortes. Un pont de la Seine sur le garde-fou, nos mains se promènent, moi j'ai le cœur flou. Je vois se poisser tes cheveux sous les postillons du bitume, la bouche de métro qui fume avale des passants nerveux, le trottoir double les lumières, autant d'étoiles sous nos pas. Je me suis ancré à ton bras pour un café ou une bière. Si je permets que tu m'entraînes, toi qui vas plonger sur la vie, je risque bien d'avoir envie de porter encore quelques chaînes. Un pont de la Seine sur le garde-fou, nos mains se promènent, moi j'ai le cœur flou. Un pont de la Seine sur le garde-fou, nos mains qui se prennent, moi j'ai le cœur flou.
C'était Alain Orange avec la chanson Le cœur flou. Ah bah, décidément, cet après-midi, j'écorche, j'oublie. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Libertaire, l'émission Et pourtant, elle existe, cette littérature. Je repasse le micro à Raphaël et à Michel.
Oui, petit rappel que souligne Michel, c'est qu'elle avait déjà pris des contacts avec le centre de Lausanne, hein, sur l'Art Brut, diffusé la revue Fragment là-bas, et qu'on a éventuellement un projet d'un entretien avec eux sur leur réalisation par le téléphone ou autrement, en tout cas un entretien sur leur fond et comment on peut s'y rendre, etc., même si c'est un peu loin. Mais voilà, donc ça, ceci étant dit, je vais terminer en ce qui me concerne en signalant deux ouvrages, hein, qui sont parus récemment, hein, 2024, automne 2024, chez Plein Champ. Le premier, je passerai très rapidement sur le premier, c'est Léon Chatry, instituteur, qui est écrit par Jules Leroux. Et Jules Leroux, il est né en décembre 1880 à Villiers-Semeuse dans les Ardennes, et il est mort le 14 juin 1915 à la bataille de Neuville-Saint-Ouen, donc une nouvelle victime de cette Première Guerre mondiale. Et il vient d'un milieu humble, hein. Il a été scolarisé à Villiers-Semeuse et à Mons, et il avait des potentiels, puisqu'il va réussir à devenir instituteur dans un village qui s'appelle Bourimont. Puis il sera élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud et nommé à Douai professeur de lettres à l'École normale. Il va aussi donner des cours d'histoire de l'art aux écoles académiques. Or, c'est un poète, c'est un romancier. Il a écrit trois ouvrages, hein, pas dans l'ordre, Une fille de rien, Le pain et le blé, et Léon Chatry, instituteur de Jules Leroux. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été à l'époque, dans les années de 1919 aux années 30, il y a deux revues qui sont importantes par rapport à la littérature prolétarienne, cette littérature qui vient d'en bas, c'est la revue Les Primaires et la revue Les Humbles. Et aujourd'hui, c'est très difficile à trouver, ou alors à des prix de trafiquants sans honte, à des prix de 50 ou 60 euros la revue, qui s'adressait aux gens d'en bas, hein, quand même, et qui donnait des témoignages. Il y a un numéro spécial de Poulain, il y a plein de numéros. Et il y a eu des études qui lui ont été consacrées à Jules Leroux dans Les Primaires et Les Humbles. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est une approche, comme le dit Edmond Thomas des éditions Malinchamp, non pas d'un hussard de la République qui a une conception carrée et formatée de l'enseignement, mais c'est plutôt le témoignage, c'est un bouquin autobiographique quasiment, hein. Léon Chatry, instituteur, c'est sa démarche, et c'est vraiment un rapport aux enfants qui est basé sur l'humanité, sur l'humanisme, et pas sur une vision verticale ou répressive, d'exclure ceux qui ont du mal à accéder à la connaissance, hein. Donc c'est en plus c'est bon aussi tous les rapports qu'on pouvait avoir avant 1914 dans des petits villages, sur les rapports avec les habitants, avec celui qui sait, avec celui qui sait lire, qui sait écrire, avec les rapports avec les élus. Il y a la question de l'anticléricalisme, par exemple, qui est apporté à un moment donné dans le rapport avec un maire. Il y a des choses vraiment et à l'Église aussi. Il y a des choses vraiment très intéressantes pour saisir une période et aussi une conception de l'enseignement qui sort, moi je trouve, un peu des voies traditionnelles. Hein, voilà. Le deuxième livre, je vais passer un petit peu plus de temps, c'est Louis Roubaud, Les enfants de Caïn, avec une préface de Ferdinand Hérogde, qui avait été une préface qui date de 1925, qui avait été secrétaire ou coprésident de la Ligue des droits de l'homme. Alors, rapidement, Louis Roubaud, c'est qui? C'est une personne qui est née en août 1884 à Marseille, qui est décédée le 14 octobre 1841 à Lyon, Petite parenthèse sur ces conditions, parce que vous allez voir que c'est quelqu'un qui a fait un travail de journaliste d'investigation. Il est attablé avec un ami, il prend un repas, et il meurt subitement. Et il y a des interrogations quand même sur cette mort subite. On s'interroge si c'était simplement une crise cardiaque ou quelque chose de plus, un crime, un empoisonnement. Il y a des doutes, parce qu'il faisait vraiment un travail qui dérangeait. D'abord, il était d'abord professeur, et puis ensuite journaliste. Et en fait, il a fait de nombreuses enquêtes sur les hôpitaux psychiatriques, la prostitution. Et dans Les enfants de Caïn, c'est vraiment un ouvrage qui est, moi je trouve, beaucoup de personnes connaissent ou ont entendu parler de Belle-Île en mer, hein, comme bagne d'enfants. Mais là, nous sommes vraiment confrontés à des témoignages sur ce qu'on appelait les colonies pénitentiaires, dans lesquelles étaient enfermés des enfants. Alors c'était parfois des orphelins ou des enfants qui avaient eu des parents démissionnaires, qui sont devenus vagabonds, qui ont commis des petits larcins et qui se retrouvent là pour être remis dans le bon ordre. Je rappelle que quelques temps après, on a appelé ça des maisons de correction, hein, y compris dans les années 50, hein, ça existait. Moi, dans ma jeunesse, j'ai entendu ça. Et là, dans ce livre, nous découvrons notamment les bagnes d'enfants d'Esse. D'Esse, c'est EY2SES, c'est dans le Lot-et-Garonne. D'Agnan, c'est dans l'Hérault. De Belle-Île-en-Mer, dans le Morbihan, où sont enfermés les garçons. Mais il y avait aussi ceux de Doulance, c'est dans la Somme, ou de Clermont, dans l'Oise, qui étaient réservés aux filles. J'ajoute que là, j'en ai donné 5, mais à la fin de l'ouvrage, il y a toute la liste des colonies pénitentiaires, et c'est assez faramineux de voir le nombre de mômes qui étaient placés. Pour le centre de Clermont, il s'appelle le château des filles perdues. Je crois que ça indique la connotation et la morale qui est derrière. Et ce livre nous fait pénétrer dans les lieux où c'est un livre d'eau dure, où s'exercent les châtiments corporels, l'isolement dans des cellules insalubres, humides, avec des souris, etc. On pratique aussi la mise sous camisole, qui sont utilisées dans des hôpitaux psychiatriques. Hein. Et il s'agit d'enfants. Hein. La privation de nourriture, qui est aussi un réflexe fréquent. Des travaux forcés. Ça me fait penser à une histoire qui est actuellement dans les actualités, qui se passe aujourd'hui. C'est des enfants de l'aide sociale à l'enfance qui ont été placés dans certaines régions de la Creuse et de Corrèze. Il y a quelques années, à des familles qui n'avaient aucune habilitation et il y a un jugement actuellement, qui ont été frappées des sévices, etc. Et je crois que les familles en question ont récupéré plus de 600 000 euros. Et voilà, donc c'est comme quoi toutes ces méthodes-là, c'est pas simplement quelque chose qui relève du passé. Donc rien n'est donc épargné à l'époque à ces enfants, qu'on appelle d'ailleurs à l'époque, la mauvaise graine. Ces colonies pénitentiaires ont existé de 1840 à 1940. Louis Roubaud combat ces bagnes d'enfants, prolongeant une lutte ancienne qui avait été menée dès décembre 1898 par l'anarchiste individualiste Zoe Daxa, dans son journal La Feuille, qui dénonçait les conditions d'enfermement à Agnan, dont j'ai parlé, qui est dans l'Hérault, et qu'on appelait le biribi des gosses. Donc, bien voir que ce combat que mène Louis Roubaud à l'époque, c'est il y a une continuité. Et entre 1901 et 1908, c'est l'assiette au beurre qui prolongera ce combat, comme les frères Bonnef. Hein. Il y aura des numéros de l'assiette au beurre et des reportages des frères Bonnef qui, eux aussi, vont disparaître pendant la guerre 14. Et bien sûr, ces enquêtes aboutiront à la fermeture des centres. Et je rappelle aussi, je me compare un peu à des reportages de journalistes comme Albert Londres ou comme Joseph Kessel, pardon, qui ont témoigné aussi pour Albert Londres. Si les bagnes ferment à Cayenne, c'est grâce aussi à ce travail de reportage. Et je rappelle aussi, en 1934, je crois que la date n'est pas bonne, c'est dans les années 50-60, il y a une révolte des enfants qui sont enfermés à Belle-Île-en-Mer. Il se trouve qu'il y a une personne qui est à côté, qui assiste à tout ça, où on voit les honnêtes gens courir après la mauvaise graine. Cette personne, c'est Jacques Prévert, et on retrouvera un texte en hommage à ces mômes dans le livre Parole. Voilà. En plus, pour compléter, pour achever là pour moi, Edmond Thomas fournit un historique de ces colonies, et l'ouvrage est complété par une bibliographie qui n'a rien de sommaire, comme l'indique le titre. Voilà. C'est dans la série Précurseurs et militants, publiée en 2024 chez Plein Champ, les deux ouvrages que nous diffusons au niveau du CLOPS et qu'on peut se procurer dans toutes les bonnes librairies. Je passe la parole à Michel, qui va
nous parler. Il n'y a pas de pause.
Non, d'accord. Non, je ne crois pas. Attends, je me souviens.
Oui, oui, oui. Non,
attends,
oui.
Je ne sais plus s'il y a une pause ou pas. Ah oui, il y avait une petite pause. Oui, oui, il y a une petite pause. Excuse-moi.
Michel, non, mais t'en prie.
J'avais zappé le fil conducteur.
L'ottavano così come si gioca. I cuccioli del maggio era normale. Loro avevano il tempo anche per la galera. Ad aspettarli fuori rimaneva la stessa rabbia, la stessa primavera. Même si le mois de mai ne vous a guère touché, même s'il n'y a pas eu de manif dans votre rue, même si votre voiture n'a pas été incendiée, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si vous avez faim de croire qu'il ne se passait rien, quand dans le pays entier les usines s'arrêtaient, même si vous n'avez rien fait pour aider ceux qui luttaient, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Si vous avez fermé votre porte à notre nez une nuit que nous avions les CRS au talon, si vous nous avez laissé matraquer sur le palier, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Dans votre ville, tout est resté bien tranquille, sans pavés, sans barricades, sans blessés, sans grenades, même si vous avez gobé ce que disait la télé, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Croyez maintenant que tout est bien comme avant, parce que vous avez voté l'ordre et la sécurité, même si vous ne voulez pas que bientôt on remette ça, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné.
Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, la radio sans publicité, sans maître, ni Dieu ni maître. Voilà, donc c'était Dominique Grange avec le titre « Chacun de vous est concerné ». Je repasse maintenant pour la suite de l'émission le micro à Michel.
Oui, bonjour à tous déjà. Donc, Je vais vous présenter aujourd'hui l'exposition qui a lieu actuellement au Centre Pompidou jusqu'au 13 janvier 2025 et qui s'appelle « Le surréalisme d'abord et toujours ». Donc c'est une très grande exposition puisqu'elle célèbre l'anniversaire centenaire de ce mouvement-là à partir de l'instant où on part de la date de la rédaction du manifeste du surréalisme. Avant de parler d'exposition, je voulais rappeler que nous avons reçu ici à l'émission en juin le groupe surréaliste de Paris. Simplement parce que les surréalistes, ils existent toujours, ils ont des activités, ils font des expositions. Alors que le musée, effectivement, va reprendre toute l'histoire du surréalisme, mais ce n'est pas figé dans un musée. C'est un mouvement qui existe toujours et qui, je pense, toujours aujourd'hui, a des choses à nous apporter. Parce que si on se souvient bien, le mouvement surréaliste est né des décombres de la grande boucherie de 1914-1918 par des jeunes gens qui, à l'époque, ont dit « plus jamais ça », ce qu'on a redit 40 ans après et qu'on redit toujours aujourd'hui. Et qui ont dit « il faut réinventer le monde ». Et qui, pour ça, ont pris des outils de la littérature, de la poésie, du cinéma. Mais c'est ce qu'on va voir là maintenant. Donc, l'exposition surréaliste célèbre donc cet anniversaire centenaire. Qui est quand même d'un mouvement qui a une extraordinaire longévité de plus de 4 décennies et qui a eu un déploiement international et qui tient toujours aujourd'hui une place singulière dans l'histoire de l'art moderne. Beaucoup, beaucoup d'artistes ou de créations s'appuient toujours aujourd'hui sur le surréalisme. Donc l'exposition, conçue à la façon d'un labyrinthe, est une plongée dans l'exceptionnelle effervescence créative du mouvement surréaliste, né en octobre 1924, avec la publication du manifeste du surréalisme fondateur d'André Breton, Aiguier qu'on voit donc dans l'exposition, puisqu'il a été prêté à titre exceptionnel par la BNF, et qu'il est bien, bien protégé. Le parcours thématique de l'exposition est cartographié en 13 chapitres. Il cartographie l'imaginaire poétique du mouvement, puisque effectivement tout part de la littérature et de la poésie, même si effectivement les surréalistes, le groupe surréaliste de l'époque a toujours eu un engagement politique qui a été diversifié, qui a donné lieu d'ailleurs à beaucoup de discussions. Mais le départ était changer le monde par le rêve. Hein. C'est-à-dire, en gros, on détruit tout, puisque de toute façon tout est été détruit et on reconstruit mais de façon différente. Et ces 13 chapitres, en fait, font alterner salle de peinture et cabinet intime d'art graphique et montrent des œuvres à partir de 1924 jusqu'aux années 1960, mais aussi l'expansion surréaliste en Amérique latine, aux États-Unis et au Japon. Et le groupe surréaliste de Paris, aujourd'hui, a toujours ses relations internationales sur leurs activités et leurs expositions. Donc, dans sa scénographie, l'exposition s'est inspirée des expositions historiques des surréalistes et de leur volonté d'émerveiller. Alors, Dieu sait qu'ils n'y sont pas allés doucement, hein. Ils ont inventé plein de choses, créé plein de choses, et c'était quand même des expositions qui, à l'époque, ont marqué tous les gens qui ont pu y assister, qui ont même rebuté certains, enfin, les trois quarts du temps, on va dire, que c'était des scandales organisés. Avec près de 500 œuvres et documents, l'exposition est une traversée magistrale du surréalisme dans l'art, mais aussi, et je redis, dans la littérature et dans le cinéma. Associant peinture, dessin, film, photographie et documents littéraires, l'exposition présente les œuvres des artistes emblématiques du mouvement que sont Max Ernst, Johan Miró, Giorgio de Chirico, René Magritte, Salvatore Dali et bien d'autres, mais aussi des surréalistes femmes, parmi lesquelles Leonora Carrington, Itel Colcun, Dora Maar et Léonore Fini. Le musée du Sacré-Cœur avait fait, il n'y a pas très longtemps, une exposition sur les surréalistes féminines, en fait. Donc, à la fois chronologique et thématique, le parcours est rythmé donc par ces 13 chapitres qui évoquent aussi les figures littéraires qui ont inspiré le mouvement surréaliste. Et alors, à l'époque, c'était quand même assez innovant. Donc, le comte de Lautréamont, autrement dit, c'est Monsieur Isidore Ducasse, mais aussi Lewis Carroll, parce que les surréalistes se sont beaucoup inspirés de Alice au Pays des Merveilles, puisque justement, ils voulaient créer le merveilleux, mais aussi Sade, qui, à sa façon, était effectivement à l'envers de son époque. Et les principes poétiques qui structurent son imaginaire, l'imaginaire donc du surréalisme, qui sont l'artiste médium. L'artiste va rentrer comme il peut et si il peut en contact avec son inconscient pour éviter toute barrière morale et sociale. C'est le rêve, la pierre philosophale, la forêt, etc. Mais on va voir tout ça après en détail. Donc, au cœur de l'exposition, qu'on parcourt donc comme un labyrinthe, hein, on rentre dans une allée merveilleuse et en fait, on va tourner dans ce labyrinthe et au centre, on a un tambour central qui abrite le manuscrit original du manifeste du surréalisme. Une projection multimédia accompagne la découverte de ce document unique, éclairant sa genèse et son sens. Donc, les 13 chapitres vont être. Donc, le premier, c'est l'entrée des médiums. Le mouvement des sens littéraires fondé par des poètes, donc le surréalisme associe la figure de l'artiste à celle du voyant. C'est très intéressant parce que dans son article « Entrée des médiums », publié en 1922, André Breton évoque les séances de sommeil hypnotiques auxquelles se livrent les surréalistes. Dans sa volonté de s'affranchir de la raison, André Breton définit l'automatisme comme la voie d'accès privilégiée à l'inconscient. C'est la recherche d'une expression immédiate, non préméditée, capable d'anticiper le flux de la pensée et qui va essayer de mettre l'inconscient à la portée de notre conscience, qui va compliquer un peu les relations avec Freud, qui comprend pas du tout ce que sont en train de faire les surréalistes, puisqu'André Breton est allé le voir pour lui expliquer le projet. Et Freud a dit « Je n'ai absolument rien compris à ce qu'ils m'ont expliqué. J'ai l'impression que ces gens bouillonnent comme de l'eau à 90 degrés. » Il n'avait pas tout à fait tort, en fait. Donc ensuite, le deuxième chapitre, c'est la trajectoire du rêve, contemporain des recherches menées par le psychanalyste. Les surréalistes transposent les méthodes de la psychanalyse à la poésie, publient leurs récits de rêve dans des revues et cherchent à reproduire le même pouvoir d'émerveillement que les images onirique qui s'offre à l'esprit à la lisière du sommeil. Donc, ils développent entre eux, en groupe, des séances de création collective. Parce que, en fait, ce qui est intéressant chez le surréalisme, c'est que c'est pas des gens qui créent à part dans leur atelier isolés. Ils font toutes les choses en collective et ils les partagent, puisque justement c'est aussi la remise en cause complètement de cette société qui les a menés à cette boucherie et à ce chaos. Donc ils veulent inventer une autre façon de vivre et une autre façon d'être avec l'autre, en fait, dans un collectif. Il y a un chapitre qui est très étonnant, qui s'appelle « Machine à coudre et parapluie ». En 1914, la revue Vers et Prose publie le texte d'un auteur oublié, Les Chants de Matador, qui date de 1869, qui est justement d'Isidore Ducasse, alias le comte de Lautréamont. Il est redécouvert par Philippe Soupeau, qui est donc un surréaliste. L'écrivain est immédiatement célébré par les surréalistes. Le texte des Chants de Matador défie toute construction logique, appelle à la violence et à la destruction, et lègue au surréaliste une définition de la beauté qui ne doit rien à l'harmonie. La beauté, C'est beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie.
Juste une remarque, c'est pas les chants de Matador ? Parce que tu as mis Matador ?
J'ai mis Matador.
Ouais.
Bon. Il me semble.
Bon,
on re-regardera. Ouais. Alors ensuite, un thème qui les intéresse vraiment beaucoup, c'est chimère. Donc c'est une chimère, c'est un lion par devant, un serpent par derrière et une chèvre au milieu. La chimère fascine les surréalistes par sa forme composite, illogique, issue du collage. Appliquant le vœu de Lautréamont de voir naître une poésie faite par tous, non par un, toujours le collectif, les surréalistes inventent en 1925 le jeu du cadavre exquis. Le cadavre exquis, en fait, c'est une élaboration collective, soit par un assemblage de mots, soit par un assemblage d'images. C'est-à-dire, on prend une feuille, on écrit une phrase ou deux phrases, on plie le papier, on passe au suivant qui écrit une phrase ou deux phrases, on plie le papier et ainsi de suite tous les participants. Et quand on déplie le papier final, on a un magnifique poème ou on a une magnifique peinture ou un magnifique collage collectif. Ces créatures inimaginables, parce que c'est vrai qu'on arrive à des choses qu'on n'aurait pas pu inventer tout seul, ces créatures inimaginables par un seul cerveau sont l'emblème de l'activité collective des surréalistes. Alors ensuite, il y a un chapitre bien sûr sur Alice. Le personnage d'Alice, donc au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, subvertit les fondements rationnels de la réalité, lui préfère le merveilleux, l'absurde et le non-sens. Ses aventures offrent une iconographie foisonnante aux peintres, donc rupture d'échelle, puisque Alice, elle grandit, elle rapetisse, métamorphose du lapin blanc, élongation des corps. Et aujourd'hui encore, beaucoup d'artistes du monde contemporain travaillent sur Alice au Pays des Merveilles. Nous avons ensuite un chapitre sur les monstres politiques. L'intérêt du surréalisme pour les monstres dont la forme et les actes échappent à la raison se confronte justement, tristement, dès les années 1930 à la réalité de la montée des fascismes. L'année même de l'avènement d'Adolf Hitler au pouvoir en 1933, les surréalistes se dotent d'une nouvelle revue qui adopte comme emblème le Minotaure. Ça, c'est quelque chose qui est toujours actuellement et depuis toujours porté par les surréalistes. Voilà. Ensuite, le royaume des mers, donc mer, M-E-R-E-S, la mer. Le surréalisme n'a cessé d'explorer la genèse, le mystère de la création du monde. En 1942, en commentant l'œuvre d'Yves Tanguy, André Breton y reconnaît l'illustration du mythe des mers, telles qu'elles sont décrites par Johann Wolfgang von Goethe dans le second Faust, en 1832. Ces formes originelles, où toute chose peut être instantanément métamorphosée en tout autre, constituent le mythe poétique le plus profond du surréalisme, puisque effectivement là on sort complètement de la réalité, que tout bouge, tout se métamorphose et tout devient autre. Ensuite, le thème bien sûr de Mélusine, personnage des mythes indo-européens popularisés au XIVe siècle, Mélusine, mi-femme, mi-serpent, est convoquée par André Breton dans son livre Arcane 17, écrit en 1945 et rédigé pendant son exil au Québec. Les surréalistes veulent croire à un âge qui, sous l'égide de Mélusine, serait en communication providentielle avec les forces élémentaires de la nature. Alors les forêts tiennent aussi tout un chapitre, donc c'est le 9e chapitre, à l'aune de la psychanalyse jungienne qui associe la crainte de la forêt aux révélations de l'inconscient. La forêt devient pour les surréalistes le théâtre du merveilleux, la métaphore du labyrinthe et du parcours initiatique. Héritier du romantisme allemand, Max Ernst et Toyen, parce que je ne sais jamais trop comment on dit, font de la forêt l'un de leurs sujets de prédilection. Ensuite, bien sûr, la pierre philosophale. Hein, les surréalistes avaient un attrait tout particulier pour l'alchimie. Donc l'intérêt pour l'alchimie et l'occultisme jalonne l'histoire des surréalistes qui trouvent dans l'alchimie la voie d'une coexistence de la connaissance et de l'intuition, de la science et de la poésie. Ils ont toujours essayé de mélanger le tout. Et il n'y avait pas très longtemps à Villeneuve-d'Ascq une exposition où je suis allée sur le surréalisme qui s'appelait « Rechercher l'or du temps ». C'est-à-dire qu'ils ont toujours essayé, chercher sous la boue, sous le sang et sous la merde, qu'est-ce qui pouvait bien être l'or de notre temps pour pouvoir le développer et faire qu'on vive de façon différente. L'hymne à la nuit, éloigné des lumières de la raison, les scènes nocturnes n'ont cessé d'être célébrées par les surréalistes et la coïncidence des contraires, donc ça... toute la philosophie, qui favorise la nuit, les inspire, et les visions oniriques nocturnes sont les métaphores de la nuit intérieure. Donc là aussi, on a toujours actuellement beaucoup, enfin déjà à l'époque, mais encore actuellement, beaucoup d'artistes qui travaillent sur cette nuit intérieure qui accompagne leurs réflexions, la poésie, la psychanalyse et tout ça. Ensuite, les larmes d'Eros, hein, en plaçant l'érotisme au cœur du projet surréaliste, Breton rend l'amour fou à son sens littéral, c'est-à-dire une passion capable de provoquer la folie. L'amour surréaliste se mue en un sentiment révolutionnaire et scandaleux. Dans cette recherche d'une liberté absolue, le marquis de Sade a ouvert la voie. La 8e exposition internationale du surréalisme, dont l'abréviation, et ça faisait le mot Eros, organisée en 1959 à la galerie Daniel Cordier à Paris, est tout entière vouée à l'érotisme. Donc c'est sûr que l'amour et l'érotisme est une pierre angulaire chez les surréalistes aussi. Et puis ensuite, on part dans le cosmos. Les surréalistes ont très tôt reconsidéré la place de l'homme au sein du cosmos, loin de la posture moderne d'un homme coupé d'une nature dont il serait le possesseur. C'est à peu près ce qu'on vit aujourd'hui, enfin depuis un moment, mais encore aujourd'hui. Le surréalisme formule l'urgence d'un nouveau rapport au monde, donc ils étaient quand même très précurseurs aussi là. La visite d'André Breton en territoire Hopi, H-O-P-I, ou celle d'Antonin Artaud chez les Tarahumaras du Mexique, confirment leurs intuitions qu'une autre relation au cosmos, à la nature, est encore possible. Alors, pour aller plus loin, parce que c'est vrai que l'exposition, si vous y allez, je vous conseille vraiment de prendre beaucoup, beaucoup de temps. D'abord parce qu'il y a un monde énorme. Alors, moi, la question que je me pose, c'est... oh, tous ces gens-là sont donc des révolutionnaires surréalistes, c'est pas possible. Nous vivons une époque magnifique. Non, je pense que c'est simplement parce qu'il y a plein de gens qui font tous les musées, quel que soit le thème, malheureusement, qui vont regarder. Mais enfin bon, il y a beaucoup de gens, énormément. L'exposition est intéressante, on va dire, voilà, même si effectivement, elle ne tient pas... elle ne prend pas en compte le surréalisme aujourd'hui, ce qui manque hein, quand même, parce qu'on a l'impression que de quelque chose un peu mort ou révolu, alors que c'est pas du tout vrai. Donc si vous voulez aller plus loin, donc bien sûr, le mieux c'est de lire le manifeste d'André Breton, donc qui est vendu en livre de poche, c'est pas très cher. Il y a bien sûr le catalogue sur l'exposition, mais là qui est cher, puisqu'il est à 50 euros, mais il est... enfin, il est intéressant. Et puis, France Culture a beaucoup de podcasts sur le surréalisme, sur André Breton, sur leur politique, sur leurs conflits, sur leur construction-déconstruction, sur... bon, voilà. Qui sont... que j'écoute, moi, régulièrement, et qui sont très intéressants, parce qu'ils nous font... alors, d'abord, les groupes de surréalistes de Paris sont intervenus dans ces émissions. Donc, c'est intéressant aussi de les entendre parler de tout ça. Parce qu'en fait, ce surréalisme, il s'est transmis, même si André Breton a voulu a acté sa dissolution. Des gens se sont opposés à ça et ont continué à porter le surréalisme et à le passer de façon transgénérationnelle. Et c'est ce que font encore aujourd'hui les surréalistes de Paris, puisque ce mouvement n'est pas mort et qu'on en a toujours bien besoin. Voilà.
Ce qui serait peut-être intéressant un jour d'aborder par rapport au surréalisme,
oui,
c'est son évolution. C'est-à-dire, à travers le temps, par exemple, entre les projets initiaux des années 20, autre façon de vivre, création collective, ça va aussi évoluer avec des pratiques sectaires au sein du mouvement, y compris des exclusions. Il y a eu toute une évolution qui, à mon avis, est importante à prendre en compte, puisque un par un, Breton va se transformer, cette façon collective de vivre, il va exclure pas mal de gens, et je pense à Artaud, par exemple, mais pas que, et où d'autres vont renier leur engagement, je pense à Aragon, qui après va rejoindre le Parti communiste, il y aura sans doute... parce que, entre... même il y aurait à analyser... Je pense leur rapport avec la politique, c'est-à-dire au départ un rejet du capitalisme, etc., par rapport à la Première Guerre. Ensuite, dans un de ses textes, quand il y a la Révolution de 17, Breton dit il y a un mouvement qui commence avec la Première Internationale, et 1917, il va y avoir autre chose. Donc il y a une sympathie pour la Russie soviétique, et ensuite une prise de distance par rapport au stalinisme, en gros, vers 1935, et après, même un rapprochement à un moment, puisqu'il y a un manifeste commun qui est signé avec Trotsky, où il y a toute une évolution, à la fois sur le plan politique, à la fois dans le fonctionnement, enfin mon avis, hein, et aussi il y a le travail collectif, je veux dire, ça va être aussi la présentation d'œuvres individuelles. C'est-à-dire chacun va suivre sa route. Et aujourd'hui, on va voir Miro, ou on va voir un tel. C'est à l'origine, il y a cette dimension collective, l'écriture automatique, etc. Mais au fil du temps, il va y avoir des... À mon avis, c'est important d'avoir un regard critique, y compris sur cette évolution, des normes qui vont être mises en place, puisque des gens sont exclus, d'autres s'en vont. Ils sont pas tous exclus, mais ils s'en vont. Et je pense que ça, c'est important, quoi. Et c'est pour ça, peut-être, que la dimension qui pouvait y avoir révolutionnaire, à un moment, ça a fabriqué des œuvres qui sont intégrées au système, aussi. C'est-à-dire qu'ils sont devenus des produits marchands. Alors qu'au départ, ils disaient... le mouvement qu'on veut faire artistique, il est indissociable du mouvement pour la libération de l'homme, notamment de la suppression de la forme bourgeoise de la propriété, il disait. Il y avait cette dimension. Est-ce qu'aujourd'hui, quand les œuvres, est-ce qu'il n'y a pas eu une récupération? Enfin, voilà, ça pourrait nous prendre un moment, mais je crois que c'est important aussi.
Qu'il y ait récupération par le marché de l'art, ça c'est tout à fait indéniable. Ce qu'il y avait aussi, c'était quand même toutes les conditions matérielles qui pesaient sur eux. C'est des gens qui n'avaient pas de fric, qui vivaient n'importe comment, n'importe où, pendant très longtemps, et qui en fait aussi avaient besoin simplement de vivre, et qui en vieillissant ont eu des compagnes, certains ont eu des enfants et qui ont eu aussi besoin de vivre. Et puis, l'extraordinaire richesse de leur production, qu'il ne faut pas oublier non plus, a attiré le marché de l'art, bien évidemment, qui s'est dit qu'ils allaient faire du fric là-dessus. Et ce qu'ils ont fait, d'ailleurs. Donc, oui, tout à fait. Alors, c'est pour ça que moi, si vraiment le sujet vous intéresse, essayez d'écouter tous les podcasts de France Culture qui, justement, reprennent tous ces aspects, différents, tous ces éclats, tous ces fragments un peu des surréalistes, parce que c'est fort intéressant à suivre comme mouvement, bien sûr, et comme développement.
Parce que est-ce qu'on peut dire que dans l'exposition, moi je ne l'ai pas vu, au Centre Pompidou, il y a cette dimension révolutionnaire?
Non, à un moment on parle de l'engagement politique, mais non, on est au Centre Pompidou, donc c'est pas
Fonctionnement interne.
Par contre, c'est vrai que quand même l'exposition, enfin au moins jusqu'en 1960, ça c'est déjà bien. Il y a des femmes, c'est déjà encore mieux. Et puis il y a aussi l'international. Mais on peut pas se contenter de cette exposition pour reconnaître le surréalisme. Par contre, c'est une grande exposition. Je pense pas qu'il y en aura une comme ça. encore pas dans longtemps.
Tu peux rappeler les dates, peut-être.
Voilà, oui, c'est jusqu'au 13 janvier. Je voulais juste te dire que tu avais raison, c'est les chants de Maltador.
Maltador,
voilà, c'est ça.
Ni Maltador.
Voilà.
Non. Je crois qu'il y avait même un bar à Paris où il y avait des copains qui
peut-être.
Voilà, je crois que Frédéric, qui est le maître du temps, nous sommes à la fin de l'émission. Donc, on dit au revoir aux auditeurs et aux auditrices de Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni nationalité. Et on vous donne rendez-vous le 21 novembre pour une émission où, normalement, on devrait avoir un invité, André Derval, pour sa biographie de Michel Ragon.
J'annonce la chanson de fin. C'est Alain Orange, toujours, comme vous avez entendu tout à l'heure. Quand un copain s'en va, nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi. Nous donnons rendez-vous à nos auditrices et nos auditeurs le 21 novembre en vous souhaitant une bonne écoute aussi des autres programmes de Radio Libertaire. Merci, au revoir.
Quand un copain s'en va avec son insolence et quelques bras d'honneur au prof qui l'ont viré, avec son désarroi, avec si peu de chance de devenir un citoyen considéré, quand un copain s'en va pour sa première galère, que c'était celui-là le copain préféré. On apprend tout d'un coup que le monde est sévère et qu'on n'est pas venu sur terre pour s'amuser. Quand un copain s'en va sous les drapeaux de la France, on peut laisser tomber sa panoplie d'Indiens, c'est un coup de poignard dans le dos de l'enfance et le visage pâle a tranché tous ses liens. Quand un copain s'en va chez la grande muette, on reste seul à faire Robinson Crusoe. C'est un baillon posé sur le champ des violettes, et vendredi est devenu un nom férié. Quand un copain s'en va du bal au bras de celle à qui l'on voulait dire, mais on n'a pas osé, que de toutes les princesses elle était la plus belle, et qu'on sait ce soir-là qu'on lui dira jamais. Quand un copain s'en va au bras d'une demoiselle pour en faire une madame, pour devenir un monsieur, on a le cœur battant, battu, qui bat de l'aile. On vient d'avoir 20 ans, on se sent déjà bien. Quand un copain s'en va sa voiture dans la cohue des citadins bison futés, quand un copain s'en va vers l'or et la poussière d'El Dorado fameux d'Amérique ou d'Asie, avec son petit sac du club en bandoulière, on préfère rester là avec sa poésie. Quand un copain s'en va au bout de son cancer pour signer de sa croix un cimetière de banlieue autour du coffre en bois, les restants se resserrent et des larmes d'enfants leur barbouillent.
suive les yeux quand un copain s'en va, qu'il a perdu sa gueule. On se souvient que c'était lui, Robin des Bois. Alors, on prend un coup, on rit, on fait le fier. Mais on sait qu'il y a des guerres qu'on ne refera pas. Alors, on prend un coup, on rit, on fait le fier. Mais on sait qu'il y a des guerres qu'on ne refera pas.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parle, un tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élu immédiatement chef du gouvernement.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Alors j'avais l'intention dans cette émission de vous parler du Service National Universel, vous savez le fameux SNU, dont la Cour des comptes a jugé le budget beaucoup plus élevé que celui qui était annoncé. Et vous dire aussi que la droite et l'extrême droite du gouvernement aimeraient bien transformer ce SNU en véritable service militaire. J'aurais aussi voulu vous parler de la situation politique en Kanaky, qui est toujours très tendue, et de la situation sociale en Martinique, qui entraîne des violences. Mais nous sommes toujours rattrapés par l'actualité et malheureusement la guerre menée par Israël contre les Palestiniens et maintenant contre les Libanais continue à faire de très nombreuses victimes civiles et bien sûr à l'Union Pacifique, nous ne pouvons pas rester indifférents aux drames humains provoqués par une armée génocidaire. Si l'armée israélienne continue à massacrer et à défier les Nations Unies, c'est parce que les gouvernements occidentaux ne prennent aucune mesure coercitive pour obliger le gouvernement israélien à stopper la guerre.